Voilà, donc nous accueillons aujourd'hui M. Marc Auger, qui est depuis 1976 directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a été entre 1985 et 1996 président de l'École des hautes études en sciences sociales. Sa spécialité, c'est l'anthropologie des mondes contemporains. Et il a publié de nombreux ouvrages. On peut citer, comme les plus importants, en tout cas, Génie du paganisme, publié chez Gallimard en 1982, Un ethnologue dans le métro, publié chez Hachette en 1986, ou bien encore Non-lieu, introduction à une anthropologie de la surmodernité, publié au Seuil en 1992, et enfin, qui vient de sortir chez Fayard, Fiction de fin de siècle, suivi de Que se passe-t-il, 29 février, 31 mars, 30 avril 2000. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole.
Je voudrais vous dire tout d'abord que je suis très heureux de participer à cet événement. Je trouve que l'Université de tous les savoirs a été une invention très remarquable et qu'elle célèbre dignement le millénaire. Voilà. Donc je me félicite d'être l'un des 366 intervenants. Culture et déplacement. Lorsque ce titre m'a été proposé, toute latitude m'était laissée de l'accommoder, de le modifier, de le reformuler en fonction de mes préoccupations intellectuelles du moment. Mais, évidemment, il n'avait pas été conçu par hasard et je crois avoir senti d'emblée l'intérêt qu'il présentait. Intérêt double en vérité. En premier lieu, tout le monde aujourd'hui entend parler de la culture, de politique culturelle, de ministère de la culture, mais aussi des cultures au pluriel, des cultures inuites, dogons, amérindiennes, voire dans un sens plus large, des cultures black ou des cultures gays. Chacun peut constater, en même temps, que l'on se déplace de plus en plus vite, de plus en plus facilement d'un point du monde à l'autre, et que cette incessante agitation n'épargne pas la culture. Il y a quantité de vedettes internationales et des images, des musiques, des rythmes venus de toutes les cultures du monde envahissent les trottoirs, les couloirs de métro et les scènes théâtrales de toutes les grandes métropoles du monde. Le tourisme et la migration accroissent cette mobilité des cultures. En second lieu, la notion de culture n'a pas l'évidence que tend à suggérer l'emploi répété de ce mot. Et c'est sans doute par là qu'il faut commencer. Le terme culture est polysémique, voire ambivalent ou contradictoire, et cette qualité doit être prise en considération avant toute interrogation sur les rapports de la ou des cultures avec le ou les déplacements qui les affectent ou au terme desquels on les rencontre. Nous envisagerons donc d'abord, si vous voulez bien, la notion de culture à partir des tensions dont elle procède. J'en distinguerai en gros trois tensions. Entre collectivité et individu, entre intérieur et extérieur, et entre passé et présent. La première tension, collectivité-individu, oppose le sens anthropologique de la culture à un sens plus spécialisé et plus individualisé à la fois. Nous parlons assez facilement, trop peut-être, de la culture européenne, de la culture française ou bretonne, comme d'une totalité dont participe chacun de ceux qui la composent. Les anthropologues, notamment ceux qui furent appelés culturalistes, sont responsables de cette acception dans la mesure où ils ont souvent été sensibles à la totalité sémantique que leur semblait constituer l'ensemble des aspects géographiques, architecturaux, économiques, sociaux, politiques, religieux d'un même groupe humain. Chaque membre du groupe est alors défini d'abord par ce qu'il partage avec les autres membres du même groupe. L'intuition commune s'accorde avec cette perception des choses. Et nous admettons tous facilement qu'il puisse y avoir, par exemple, entre un Anglais, un Espagnol et un Russe, des différences qui ne sont pas toutes imputables à leur seule individualité. Seulement, dans le même temps, usant du même terme, nous considérons qu'il y a des individus plus cultivés que les autres. Et par exemple, des Anglais qui ont lu Cervantes et des Russes qui ont lu Shakespeare. La culture individuelle n'est donc pas la culture au sens anthropologique, la culture partagée. Elle n'est pas la simple expression du terroir, du territoire et de l'histoire locale. Elle en excède les frontières et elle hiérarchise les individus. La deuxième tension prolonge la première. Nous sommes habitués aux appels qui nous sont souvent adressés aujourd'hui pour nous inviter au respect des différences, et notamment au respect des différences culturelles. La culture qu'il faut respecter dans sa différence, c'est la culture anthropologique, cette totalité où se combinent les aspects sociaux, économiques, politiques, religieux d'une société ou d'une communauté. Cette culture, c'est en somme la synthèse chatoyante du social. C'est la fleur poussée sur le terreau de la société, une sorte de pâquerette ou de marguerite. Ses pétales sont nombreux, mais monochromes. Seulement, à y regarder de près, de nombreux jardiniers se sont penchés sur son berceau, et son terreau originel est souvent plus mêlé qu'il n'y paraît. L'anthropologie a souvent dû le reconnaître. Les mythes d'autochtonie sont des mythes, justement. Les hommes ne sont pas nés de la terre qu'ils occupent, leur culture non plus. Les groupes humains se sont heurtés à d'autres, se sont déplacés, ont fait des alliances et des guerres, ont connu des victoires et des défaites, ont échangé des mots, des objets, des techniques, des esclaves, des prisonniers, des femmes et des dieux. La culture a besoin de l'histoire, c'est-à-dire des autres. La culture que des individus, depuis leur naissance, appréhendent de l'intérieur, par l'apprentissage et l'éducation, la culture qu'ils absorbent et dont ils se nourrissent, s'est elle-même fortifiée en gardant le contact avec l'extérieur. L'anthropologie la plus classique a constaté que les traits culturels circulaient, se diffusaient, s'empruntaient. Elle a constaté plus largement que tous les groupes humains avaient été sensibles à la nécessité de l'échange pour survivre. À l'échange, à la nécessité de l'échange, notamment la nécessité de l'échange des femmes, symbole de la domination masculine. L'échange n'est évidemment pas exclusif des tensions et des conflits. Le thème des beaux-frères ennemis a été développé par les anthropologues américanistes travaillant sur les groupes indiens de l'Amazonie, par exemple. Mais nous y avons été sensibilisés dès nos premières années du secondaire par le conflit des Romains et des Sabins, des Horaces et des Curiaces. Dans Race et Histoire, Lévi-Strauss fait remarquer que le miracle de la Renaissance européenne a tenu au fait que l'Europe de cette époque avait su, dans un temps très court, rassembler les apports les plus divers des pays les plus lointains, de l'Afrique à la Chine. À une autre échelle, nous savons tous que les châteaux de la Loire, quintessence du bon goût français, doivent aux architectes italiens. Il ne devrait donc y avoir aucune contradiction véritable entre intérieur et extérieur. Tout patrimoine culturel se nourrit d'emprunts et d'échanges. Le déplacement des hommes, des traditions, des techniques et des objets lui est consubstantiel. On peut sans doute aller plus loin et considérer qu'une culture qui n'échange pas est une culture menacée de mort, car les cultures sont comme les langues, vivantes ou mortes, et elles ne vivent que si elles sont pratiquées, exposées dès lors à la bienheureuse fatalité du changement. La troisième tension inscrit cette nécessité du changement sur l'axe du temps. nous pouvons l'appréhender aussi bien dans le domaine de la culture individuelle que dans celui de la culture anthropologique, de la culture partagée. Dans le premier domaine, le domaine de la culture qui s'enseigne, cette tension inspire un certain nombre de craintes. On peut penser, par exemple, que les innovations modernes dans le domaine de la technologie sont par elles-mêmes un ferment de dissolution des valeurs culturelles classiques, ou à tout le moins qu'elles entraînent un désintérêt à leur égard. La première crainte a quelque chose de magique et de déraisonnable, car les techniques, outre qu'elles sont la source d'une culture spécifique, sont le fruit d'une histoire plus ample qui appartient bel et bien au patrimoine culturel des nations. Pensons, pour ce qui nous concerne, à Pascal, à l'encyclopédie, à Diderot. La seconde est certainement plus justifiée. Il n'est pas exclu, en effet, qu'une vision trop étroite de la nouveauté conduise à privilégier certains enseignements aux dépens d'autres, donc de la culture générale, l'histoire, les lettres, la philosophie. Cette vision n'est évidemment pas imputable aux techniques elles-mêmes, ni même aux techniciens, mais à ce que l'on pourrait appeler le snobisme de la nouveauté. On voit à ce point la proximité, au fond, des notions de culture individuelle et de culture anthropologique. Car les craintes qui concernent cette dernière reprennent et englobent celles qui touchaient à des domaines plus limités et plus précis de la culture, le latin, la philosophie, etc. Ces craintes, de façon générale, envisagent le futur comme une rupture, une révolution, non une évolution. L'idée d'un fossé qui sépare les générations a certes toujours existé, mais elle prend aujourd'hui des formes nouvelles du fait des spécificités de l'époque, et plus particulièrement du phénomène de la mondialisation. Nous y viendrons dans un instant. Je voudrais auparavant revenir sur les trois tensions que je viens de mentionner et mesurer ce que représente exactement le passage de l'un à l'autre des pôles qui les suscitent. La tension entre collectivité et individu peut prendre la forme, si l'on privilégie ces deux pôles extrêmes, d'une tension entre communautarisme et élitisme. La première ethnographie a parfois appréhendé les groupes humains qu'elle étudiait en faisant le recensement de ce que l'on appelait à l'époque leurs mœurs et leurs coutumes, en termes essentiellement naturalistes, comme si ces mœurs et coutumes définissaient indifféremment la communauté et chacun de ceux qui la composent. Ce mode d'appréhension peut s'étendre à un ensemble de traits de caractère et de comportement, une psychologie partagée qui caractériserait indifféremment le groupe et ses membres. Ainsi se trouve justifiée l'évocation d'un individu type, somme ou quintessence de tous ceux qui l'entourent. L'emploi de l'article défini et l'usage du singulier traduisent cette appréhension de la réalité dans les cas extrêmes. L'ethnographie coloniale évoque facilement le Dogon, le Bambara ou le Hottentot. Mais on sait que les stéréotypes du racisme ordinaire ou sophistiqué recourent facilement à ce procédé stylistique pour évoquer l'état supposé du juif, de l'arabe, du noir, etc. Du point de vue qui nous intéresse, nous retiendrons que c'est l'ensemble indifférencié constitué par les règles de la vie sociale, les institutions qui les mettent en œuvre, les représentations et les récits dont elles sont l'objet et les pratiques conséquentes, qui définit alors la culture, une culture supposée assez prégnante pour commander les comportements de chacun parce qu'elle est conçue comme l'équivalent d'une nature. Le racisme, épousant cette même perspective, peut faire des groupes qu'il stigmatise l'équivalent d'une espèce animale. Dans le groupe stigmatisé, l'un vaut l'autre. Ils sont tous les mêmes. Mais cet argument peut être pris au mot par ceux qu'il visait et donner lieu à des affirmations et des revendications qui en sont l'exacte réplique, au double sens du terme réplique. Nous, les Juifs, les Bretons, les Corses, les Arabes, les jeunes, les femmes, les mecs, pensons que ceci ou cela, et nous le pensons en tant que Juifs, Bretons, etc. À l'opposé de ce vertige culturaliste, se situe une conception de la culture comme essentiellement individuelle. Il y a des individus cultivés, plus ou moins cultivés, et d'autres qui ne le sont pas, ou qui le sont moins. La culture des individus cultivés n'est donc pas une culture anthropologique partagée par un groupe plus ou moins identifié à un territoire. C'est une culture de l'élite qui transcende les frontières nationales et permet d'exprimer à l'occasion des complicités de classe ou de caste. C'est la culture dont Jean Renoir met en scène les ultimes manifestations lorsqu'il fait dialoguer dans la grande illusion les officiers aristocrates français et allemands auxquels Pierre Freinet et Erich von Stroheim prêtent leur voix et leur silhouette. Détail significatif par parenthèse, l'usage occasionnel de l'anglais par ces deux officiers est présenté dans le film comme un signe suprême de distinction. On sait qu'avec un autre accent peut-être, l'usage plus ou moins maîtrisé de l'anglais a changé aujourd'hui de statut social. Toujours est-il que, en sens inverse, face à la culture des élites individualistes et dans le regard de ces élites, la culture partagée, la culture au sens anthropologique, prend la forme d'un folklore, d'une tradition attachante au demeurant, mais socialement connotée. C'est la culture des gens sans culture. Poussée à l'extrême, la tension intérieure-extérieure, pour sa part, s'apparenterait plutôt à une opposition entre le terroir et la planète. D'un côté, ceux qui ne jurent que par leur terre et ses produits, leurs usages, leur langue. De l'autre, ceux qui attendent tout des autres, du voyage ou de l'importation. Provincialisme d'un côté, cosmopolitisme de l'autre. Quant à la troisième tension, il est aisé de voir que ces pôles extrêmes s'identifient l'un à la tradition et au conservatisme, l'autre à la modernité ou plutôt au culte de la nouveauté et à toutes les formules qui peuvent s'y rattacher. Si nous récapitulons ces formes extrêmes du rapport à la culture, nous pourrons donc opposer une série communauté, terroir, tradition à une série individu, planète, nouveauté, le conservatisme du terroir communautaire au snobisme de l'individualisme sans frontières. La cause, dès lors, pourrait paraître entendue. Entre le repliement sur soi et la dispersion incontrôlée, nul n'est évidemment tenu de choisir. Il n'y a pas, au sens strict, de culture individuelle. Toute culture est une culture d'emprunt, il faut l'acquérir. Elle est le résultat d'une sorte de négociation. La culture, par définition, implique le rapport à autrui, le rapport à l'histoire, à l'entourage, à la société et au monde. On peut donc dire de la culture ce que l'on pourrait dire de toute identité, individuelle ou collective, elle se construit à l'épreuve des autres. Pas de culture sans emprunt, donc, l'élitisme individuel devient contradictoire s'il est poussé à l'extrême. Mais il n'y a pas de culture nature non plus, pas de culture par simple imprégnation, pas de culture empreinte, pas de culture qui doive tout aux cieux d'Île-de-France ou de la Loire, à la lumière méditerranéenne ou aux couleurs des tropiques. Ce spontanéisme culturel n'est au contraire évoqué, dans les pires des cas, que pour s'opposer à d'autres, les nier ou les éliminer et interrompre ainsi le processus infini de mise à l'épreuve de la différence, de l'altérité et de l'ailleurs qui est constitutif de toute identité culturelle. Pour reprendre les termes de notre débat, je dirais que la vie de la culture, sous quelque angle qu'on l'envisage, est animée par le déplacement qu'elle ne cesse d'effectuer entre les pôles extrêmes où elle ne se fixerait qu'au risque de se figer ou de se dissoudre, le conservatisme et le snobisme. Ce déplacement, c'est le double déplacement de soi vers l'autre et de l'autre vers soi, faute desquels il n'y a plus ni soi ni autre. Mais d'où vient alors aujourd'hui le malaise qui nourrit tous les débats sur la culture et l'identité? Ne sommes-nous pas, à certains égards, dans une période exceptionnelle? Ne voyons-nous pas s'affirmer partout les identités les plus localisées? Pour rester en France, ne voyons-nous pas s'illuminer chaque soir les emblèmes villageois de notre patrimoine commun, églises, basiliques, forteresses, châteaux, remparts? Et dans le même temps, ne sommes-nous pas en contact, au moins par l'image et l'information, avec le reste du monde? N'avons-nous pas en main, comme jamais auparavant, les armes de la négociation culturelle, les instruments de l'échange et du déplacement? Si, bien sûr, nous avons tout cela, mais les termes de la question ont changé. Nous avons tous les instruments de l'échange, mais nous ne sommes pas sûrs d'avoir grand-chose à échanger. Je voudrais maintenant essayer brièvement de détailler ce constat. À force de nous déplacer, nous avons fait le tour du monde dans tous les sens possibles. Colonisés, décolonisés, mais cependant bien inégalement développés sur les plans économiques et sociaux, la planète est percée à jour, connue, répertoriée. Les cultures différentes sont rangées dans les tiroirs des musées d'ethnographie. Les films documentaires nous permettent de voir, à la télévision par exemple, ce qui relève encore à nos yeux, pour une part, de l'exotisme. On peut entendre parler de tout. Parallèlement, des mots nouveaux sont apparus. Mondialisation, globalisation, planétarisation. Il peut être utile pour notre propos de les distinguer. La mondialisation, c'est le terme le plus général. Elle correspond à un changement d'échelle et de référence dans tous les domaines de la vie sociale, politique et culturelle. Je dirais que la globalisation et la planétarisation en sont deux modalités spécifiques et par certains aspects contradictoires. La globalisation est essentiellement économique et technologique. Si nous voulions la résumer en quelques mots, il nous faudrait parler du marché, des marchés financiers, de l'Organisation mondiale du commerce, des entreprises multinationales, du cyberespace, de la télévision. Le terme planétarisation s'emploie, ou devrait s'employer, dans des acceptions plus écologiques, le réchauffement de la planète, la couche d'ozone, et plus éthiques. Le sentiment planétaire, c'est celui d'un destin commun à l'humanité, mais aussi la conscience des enjeux de la globalisation, et par exemple d'un partage du monde entre ceux qui deviennent de plus en plus riches et ceux qui deviennent de plus en plus pauvres. Une conscience de l'écart qui se creuse chaque jour davantage entre des univers différents. À ce point, un paradoxe se fait jour. Le monde globalisé, c'est aussi le monde de la plus grande différence. C'est le monde où s'accélèrent la circulation, la communication et la consommation, et nul coin du globe n'échappe aux effets de cette triple accélération. Mais les uns et les autres ne circulent, ne communiquent ni ne consomment dans les mêmes proportions et dans les mêmes conditions. Figure achevée du paradoxe, les différences s'effacent et les inégalités se creusent. Le monde est chaque jour plus uniforme et plus inégal. Du point de vue qui nous intéresse ici, les conséquences de cet état de choses sont doubles. D'une part, à l'échelle du monde, l'extérieur dont se nourrit l'intérieur, est en voie de disparition. Disons que chaque jour, la distinction extérieure-intérieure perd de sa pertinence. En attendant que quelques civilisations issues d'une lointaine galaxie relancent la dialectique intérieure-extérieure en nous proposant des formules inédites, il faut faire avec ce que l'on a, la planète. Et dès lors, trois tendances se dessinent qui constituent, à des titres divers, une menace ou à tout le moins une contrainte pour la vie culturelle conçue comme circulation entre les trois pôles, entre les pôles extrêmes mentionnés plus haut. Trois tendances, trois formes de globalisation. La globalisation impériale, la globalisation éclatée et la globalisation médiatique. La globalisation impériale, c'est celle que peuvent être tentés d'imaginer les États-Unis, la puissance dominante, ou au moins certains de ses représentants. Il n'y a d'ailleurs ni à s'en étonner, ni à s'en indigner. L'ambition impériale a toujours existé, mais aujourd'hui, elle concerne la planète entière et se fait sentir dans tous les aspects de la vie sociale et culturelle du fait de l'essor des technologies de communication. Le rétrécissement de la planète rend chaque jour plus crédible et aux yeux des plus puissants, plus séduisante, l'idée d'un gouvernement mondial, ou à tout le moins d'une hégémonie américaine en l'occurrence, dans tous les domaines. Les films de science-fiction l'avouent ingénument lorsqu'ils font du débarquement des extraterrestres une affaire qui concerne à peu près exclusivement le Pentagone, même si, conscient sans doute du côté choquant que pourrait avoir cette exclusivité aux yeux des divers publics du monde auprès desquels ces films font carrière, les plus récents d'entre eux accordent un petit rôle aux nations et aux héros périphériques. Il y a quelque temps, le monde diplomatique rapportait, sous la plume d'ailleurs très critique d'un professeur américain à l'université de San Diego, la vision que se faisait de l'avenir M. David Roskopf, directeur du cabinet de consultants de Henry Kissinger. Voici ce qu'il écrivait à ce propos dans le journal Foreign Policy. Il y va de l'intérêt économique et politique des États-Unis de veiller à ce que si le monde adopte une langue commune, ce soit l'anglais, que s'il s'oriente vers des normes communes en matière de communication, de sécurité et de qualité, les normes soient américaines, que si ces différentes parties sont reliées par la télévision, la radio et la musique, les programmes soient américains, et que si s'élaborent des valeurs communes, ce soient des valeurs dans lesquelles les Américains se reconnaissent. Voilà un programme d'anthropologie culturelle appliquée dont nous sentons bien que, par plusieurs aspects, il est assez largement en voie de réalisation, quelles que soient d'ailleurs les mauvaises ou bonnes intentions des uns et des autres. Ce sont les rapports de force qui poussent dans ce sens. Et il explique que, par contre-coup, se manifestent des réactions de défense économique, politique et culturelle. Les réactions culturelles, quant à elles, sont marquées par une certaine ambiguïté. Tout se passe d'abord comme si, en l'absence d'extérieur et d'altérité radicale, en cette fin de siècle où l'exploration de la planète humaine est achevée, les différentes cultures nationales se ressourçaient de l'intérieur en redécouvrant les traditions que les idéologies nationales du siècle précédent avaient gommées. On redécouvre les régions, les minorités, les terroirs. Pour intéressante qu'elle soit, cette réaction correspond nécessairement à un repli sur l'ethnie, sur le territoire et le chez-soi, qui est à l'opposé des idéaux de mélange, de citoyenneté et d'individualité qui prolongeaient l'idéologie des Lumières. Les anthropologues américains du courant dit postmoderne ont développé, de ce point de vue, une théorie subtile que je rangerai pour ma part sous l'étiquette « globalisation éclatée ». Ils ont fait remarquer que le monde ne s'apparentait pas du tout aujourd'hui au village global cher à McLuhan, mais que s'y déployait au contraire une multiplicité de revendications culturelles originales. Le monde serait ainsi devenu une sorte de patchwork dont chaque morceau serait occupé, illustré, colorié par une ethnie ou un groupe particulier. De fait, sur le continent américain, pour ne parler que de lui, les revendications des populations amérindiennes, souvent dans un état de grande pauvreté, passent par l'affirmation de leur culture et de leur histoire propre, même, comme dans le cas du Chiapas ou d'autres régions, lorsqu'ils ont recours, épisodiquement ou de façon continue, à la violence armée. L'anthropologie postmoderne américaine a raison d'attirer l'attention sur la diversité revendiquée du monde. Mais ce serait sans doute une illusion de voir dans ces revendications multiples la source, l'expression et la promesse d'échanges à venir, et par là d'un renouveau prochain des cultures du monde. Il ne faut en effet ni sous-estimer le caractère stéréotypé des revendications particulières, ni leur intégration dans le système de consommation, de communication ou de consommation mondiale. La rébellion zapatiste du Chiapas est connue aujourd'hui de l'opinion publique mondiale parce que son animateur, le sous-commandant Marcos, maîtrise l'utilisation des médias et du cyberespace. La globalisation éclatée correspond à un moment de l'histoire de la planète dominé par la globalisation économique et technologique. Or, celle-ci s'accommode fort bien des particularismes culturels, pour autant qu'ils n'affectent pas le domaine de la consommation et les règles du marché. Elle peut même appeler au respect de ces différences. Ce vocabulaire fait partie du prêt-à-porter ou du prêt-à-penser politique que l'on rencontre un peu partout et qui oscille entre évidence, pléonasme et parfois mensonge. S'il ne s'agit que de différences superficielles, de culture au sens minimal du terme, des façons de danser, des régimes alimentaires, il va de soi qu'elles sont toutes aussi respectables les unes que les autres, même si le terme « respectable » n'est sans doute pas le plus pertinent pour qualifier une attitude qui peut aller de l'indifférence à l'intérêt sans connotation morale particulière. S'il s'agit de différences plus profondes, de culture au sens anthropologique du terme, le respect ne va pas de soi. L'esclavage, l'excision, l'inégalité juridique des sexes font partie des valeurs dominantes de certaines cultures et n'ont pas à être respectées en droit au nom d'on ne sait quel relativisme culturel. Et quand ils le sont, dans l'optique du plus grand marché libéral, c'est cynisme et non tolérance. Il faut ici distinguer deux aspects. Un aspect éthique, car on peut penser que les droits de l'homme, qui sont les droits de l'individu, l'emportent sur le droit des cultures. L'histoire de la démocratie en Europe, dont on admettra volontiers qu'elle n'est pas achevée, s'apparente à une lutte entre les deux types de droits. Par parenthèse, tout ethnologue qui a une expérience réelle des sociétés villageoises traditionnelles sait bien que leur logique intrinsèque est incompatible avec tout désir d'affranchissement individuel. Le deuxième aspect est beaucoup plus factuel. Indépendamment des appréciations éthiques que nous pouvons formuler sur les différentes cultures qui tentent de réaffirmer leur présence dans le monde globalisé, il nous faut reconnaître que nous n'en prenons connaissance, généralement, qu'à travers les médias qui nous en informent. Le travail propre de la globalisation médiatique, c'est de mettre en spectacle les différences et, à la limite, d'en faire des produits de consommation touristique en premier lieu. Le camp d'omblée brésilien, les campements Yanomami, les guerriers Maasai figurent au menu des programmes touristiques européens. De consommation télévisuelle, cinématographique, photographique, bien évidemment. Finalement, de consommation d'images plus ou moins stéréotypées, qui nous entourent quotidiennement, que nous sommes invités à consommer passivement et qui font partie, avec la politique, le sport, les variétés, d'un monde médiatique qui rend chaque jour plus incertaine la distinction entre réel et fiction. L'image à consommer de suite, comme certaines pâtisseries, égalise les événements. Des milliers de morts en Afghanistan, nouvel échec du Paris Saint-Germain. Égalise les personnes, les vedettes de la politique, du sport, des variétés, de la télévision elle-même, mais aussi les poupées et marionnettes qui collent à la peau de leurs modèles, ou même les personnages de certaines séries télévisées qui nous paraissent plus réels que leurs acteurs. Elle rend problématique le statut de l'événement, puisqu'à l'évidence, certains événements sont conçus et mis en scène pour être vus à la télé. Elle développe, comme dans les supermarchés où nous faisons nos courses, l'illusion du libre choix. La culture comme produit de consommation est à ma disposition sur les sites auxquels Internet me donne accès, comme elle l'est sur les chaînes de télévision. Que conclure de tout cela ? Que les ressources de la technologie compliquent notre rapport à l'altérité, alors que la reconnaissance de celle-ci est au cœur de l'activité culturelle. L'accoutumance à l'image isole l'individu et lui propose des simulacres d'autrui. Plus je suis dans l'image, moins je suis investi dans l'activité de négociation avec autrui qui est en retour constitutive de mon identité. L'image, souvent, ne joue plus un rôle de médiation avec l'autre, mais s'y substitue, s'identifie à lui. L'écran n'est pas un médiateur entre moi et ceux qu'il me présente. Il ne crée pas de réciprocité entre eux et moi. Je les vois, mais ils ne me voient pas, même quand ils semblent me regarder. Cet aveuglement accompagne les grands déplacements, les grands mouvements de population de sens inverse qui traversent aujourd'hui la planète. Leurs difficultés économiques précipitent les migrants vers un monde occidental qu'ils ont tendance à mythifier. Les touristes, l'œil rivé sur leur caméra, parcourent avec ravissement les pays dont partent les migrants. Il n'est pas sûr que courant le monde, le photographiant et le filmant, ils ne découvrent pas essentiellement dans leur voyage, comme dans la fameuse auberge espagnole, ce qu'ils y avaient eux-mêmes apporté, des images. Et que ce faisant, ils oublient de se déplacer au plus près d'eux-mêmes, de regarder ceux qui, venus de loin, vivent maintenant près d'eux et construisent peut-être avec eux, mais à leur insu, une nouvelle culture. Ma conclusion, contrairement à ce qu'a peut-être laissé entendre mon propos, ne sera ni pessimiste ni défensive. Prendre conscience des graves inégalités qui pèsent sur le destin du monde à venir, dénoncer les illusions d'une vie aliénée aux technologies de la communication et s'inquiéter des conditions dans lesquelles la référence planétaire s'impose à toutes les sociétés et à toutes les cultures du monde, ce n'est pas vouloir ignorer le caractère inéluctable de la mondialisation, encore moins refuser les chances que nous offre dans de nombreux domaines le développement des technologies. C'est encore moins défendre une vision passéiste de la culture. Le patrimoine et l'histoire sont un aspect important de toute culture, mais les cultures vivantes ne peuvent se conjuguer qu'au présent et au futur. Je le disais tout à l'heure, comme les langues, elles sont mortes ou vivantes et ne peuvent vivre que par l'échange en s'ouvrant au futur. S'ouvrir au futur aujourd'hui, c'est bien évidemment intégrer au patrimoine culturel et à la culture de tout être humain cultivé l'acquis des technologies de la communication et un minimum de connaissances scientifiques, une connaissance générale de l'état des questions. Car c'est du côté de la science dorénavant qu'une porte reste ouverte sur l'aventure. La science, pas à pas, déplace les frontières de l'inconnu et nous conduit à reformuler sans cesse les questions que nous pouvons nous poser sur ce que sont la vie, la conscience, l'humanité, l'univers. Ce déplacement de la culture vers la science, une fois bien admis que les images ne sont que des images et les moyens de communication et de calcul que des moyens, n'est d'ailleurs pas à proprement parler un déplacement. Dans notre propre tradition de la pensée grecque jusqu'aux plus grands penseurs contemporains, le domaine scientifique fait partie du domaine philosophique et au sens le plus large, culturel. Quant aux cultures traditionnelles des sociétés qu'a étudiées l'ethnologie, elles ont aussi tenté de mettre en forme les questions que leur inspirait l'observation de la vie, des êtres humains, de la maladie, de la mort, de la reproduction, des régularités et des accidents de la nature. Elles ont souvent anticipé par l'imagination les nouveautés dont le progrès des techniques nous fait aujourd'hui témoin ou nous permet d'envisager la possibilité prochaine. Les greffes, le clonage, la communication à distance. La culture de demain sera donc dans le droit fil de celle d'hier ou d'avant-hier, mais elle reposera sur une base scientifique plus large et plus sûre. Cela dit, toute réflexion sur la culture ou les cultures de demain devra tenir compte de deux obstacles majeurs. Le fossé, l'abîme qui s'élargit tous les jours entre les plus riches et les plus pauvres, entre ceux qui auront accès à la culture et ceux qui ne l'auront pas. Le second obstacle pourrait, à sa manière, contribuer au développement du premier. C'est l'invasion des images et le risque qu'elles comportent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, des simulacres pour des réalités. Le déplacement à effectuer de ce point de vue serait plutôt un renversement. Pour Marx, il y avait derrière les rapports avec les choses des rapports entre les hommes. Cela est encore plus vrai du rapport avec les images. La réflexion sur l'avenir de la culture débouche ainsi sur ce qu'il faut bien appeler une utopie. La culture, en droit, sera demain, après-demain, plus tard, peut-être. La culture de tous et de chacun. La distinction entre culture individuelle et culture anthropologique s'effacera du jour où n'importe quel individu, comme beaucoup d'intellectuels ou d'artistes aujourd'hui, pourra considérer qu'il porte en lui son propre patrimoine culturel, mais qu'il peut le mesurer et l'enrichir au contact d'individus n'importe où dans le monde. Je crois donc que l'avenir de la culture dépend davantage de l'immense effort d'éducation qui reste à accomplir que des réaffirmations culturelles locales qui n'en seront, dans la meilleure des hypothèses, qu'un aspect ou un élément. L'individu d'un côté, la planète de l'autre, et de l'un à l'autre une multiplicité de relations qui ne saurait se réduire à l'échange d'informations permis ou suscité par les technologies de la communication. À l'échelle du globe, la diversité nécessaire au dynamisme culturel se confondra avec celle des milliards d'individus qui, chacun pour leur part, sont et seront encore davantage à l'avenir, ou disons par réalisme, devraient être dès aujourd'hui et plus encore demain, chacun pour leur part, un monde et une culture. C'est dire que l'utopie contemporaine, à la différence des autres, a trouvé son lieu. Ni une île déserte, ni le ciel étoilé, mais la planète elle-même, ou encore l'imagination de n'importe qui, n'importe où dans le monde, pour autant qu'elle arrivera à concevoir que l'utopie planétaire est l'avenir de l'homme.
Bon, je voudrais revenir simplement sur la notion de culture individuelle. Vous l'avez abordé un petit peu à la fin. Vous avez fait allusion au début dans le film de Jean Renoir en présentant les deux officiers qui présentent effectivement une culture, mais qui était quand même basée sur un élitisme très clair, c'est-à-dire sur un esprit de caste. Hein. Et on ne savait pas très bien pourquoi ils étaient cultivés, sinon parce qu'ils appartenaient tous les deux au même milieu, c'est-à-dire la noblesse. La question que j'aurais vous poser, c'est à votre avis, quelles sont les qualités de l'esprit qui font qu'un homme, aujourd'hui, dans notre pays, par exemple, est cultivé, est considéré comme cultivé ou non cultivé? dans le domaine des connaissances, par exemple, quelles connaissances. Alors, on peut le parler au point de vue culture générale ou d'une culture plus particulière. Mais disons, culture générale, par exemple, quelles sont les connaissances minimum qu'il faut qu'il possède pour que, et qu'il soit indispensable. Quelles sont les qualités de son esprit, de son intelligence, de son esprit d'analyse, de synthèse, de critique, son esprit critique surtout, qui doit être très important. Et peut-être au-delà encore, ses facultés d'imagination et de créativité. Est-ce que ça fait partie de la culture ?
Je crois que vous avez vous-même répondu à la question que vous me posiez. Je souscrirai volontiers à tout ce que vous avez dit. Je pense simplement qu'en effet, le problème de la culture générale aujourd'hui est encore plus compliqué que jamais, parce qu'on imagine mal qu'on puisse faire l'impasse sur ce qui a défini la culture la plus classique. Je crois qu'il est bon d'avoir le maximum de références classiques en matière de philosophie, par exemple, mais il est bien évident qu'on ne peut pas imaginer une personne moderne aujourd'hui qui ne serait pas au fait des avancées technologiques et du bilan scientifique. C'est évident que l'honnête homme d'aujourd'hui doit avoir une ouverture totale. C'est un peu comme cela d'ailleurs que les choses se concevaient au siècle des Lumières. Simplement, le capital de connaissances a augmenté. Nous sommes dans un monde où les connaissances actives, celles que l'on peut exercer professionnellement, sont de plus en plus spécialisées. À l'intérieur même d'un champ disciplinaire, il y a des spécialités et on conçoit que professionnellement, techniquement, un individu doive se spécialiser. Alors évidemment, il est sans doute important, et peut-être aussi d'ailleurs pour l'exercice de sa profession, qu'il ait en outre l'horizon le plus large derrière lui, autour de lui. Mais il est évident que ce n'est pas une question simple.
Oui, allez-y.
Oui, je voulais vous... je suis juste à côté du monsieur qui vient de poser la question. Voilà, le problème peut-être du déplacement, j'ai du mal à saisir le concept, surtout au pluriel. Moi, je pense, je vous pose une question, est-ce que sur la vitesse d'accès à la culture, la rapidité pour un individu, ou pour d'ailleurs une société, je pense que le problème est le même, mais quel est l'impact de la tradition par rapport à la nécessité peut-être d'un décentrement? Je ne parle pas de déplacement, mais peut-être d'un décentrement. C'est-à-dire, vers quel type de culture allons-nous sur le plan de la moralité et de l'union entre, du recueillement de l'union entre les hommes? C'est un peu cela la question que je pose, elle est peut-être un peu complexe.
Elle est complexe, elle est surtout très vaste. Il est évident que je n'y répondrai pas de façon satisfaisante, mais quelques remarques sur le mot de déplacement, si vous voulez. Moi, je l'ai entendu d'abord comme est-ce que la culture, c'est d'exprimer les valeurs dans lesquelles on a été élevé, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle se nourrit simplement du terroir où on a trouvé naissance, ou est-ce qu'au contraire elle s'enrichit à la découverte des autres et de la... Alors les autres, ça peut être les autres cultures, les autres populations, les autres histoires, les autres expériences, les autres milieux, ça peut être aussi les autres disciplines, etc. Bon, il est évident que de ce point de vue, la réponse est ambivalente. On ne peut pas abandonner son fond propre, mais on s'élargit en accédant au domaine des autres. Mais aujourd'hui, bien évidemment, tout va très vite et on se déplace au moins par l'image instantanément d'un point du monde à l'autre. La conception des rapports entre individus bouge également. La conception de l'homme au sens générique bouge aussi. Et donc il y a tout un monde en changement qui impose à tout esprit désireux, au fond, d'épouser son époque, une capacité à se déplacer, à imaginer, sans s'aliéner, en gardant ce sens critique auquel on faisait allusion tout à l'heure. Et le terme de déplacement, à mon avis, peut rendre compte un peu de cette nécessaire mobilité.
Est-ce que reconnaître les erreurs passées fait partie de la culture? Par exemple, je vais de reconnaître la torture en Algérie, est-ce que c'est un progrès de la culture?
Je pense que, de toute manière, l'histoire fait partie de la culture. Et donc, en effet, la culture, en tout cas, ne peut pas, comment dire, ne peut pas participer du mensonge. Par conséquent, je pense, oui, que toute élucidation d'ordre historique fait partie de la culture. Bon, il y a la culture de l'historien, n'est-ce pas, au sens un peu technique du terme, et puis il y a tout ce qui est lié à l'expérience citoyenne. Et l'expérience citoyenne, elle se construit aussi à travers une culture de type politique. Et je pense qu'il y a un aspect politique de la culture. La démocratie demande une culture politique. Il y a une culture démocratique, et de ce point de vue, je vous rejoindrai volontiers.
Oui.
Oui, sur, à propos de l'immense effort ici. Bonsoir, monsieur. À propos de l'immense effort d'éducation dont vous parlez, qui permettrait à l'homme d'accéder à la culture et d'être moins aliéné par l'image. Bon, élargir son horizon, c'est possible à faire une fois qu'on est adulte. Mais comment c'est possible dans le sens d'éduquer, au sens d'éduquer les enfants? Comment élargir leurs horizons? La seule solution qui a été trouvée pour l'instant, c'est la famille. Est-ce que vous avez d'autres idées?
Bon, l'école. Et l'école, vous savez, je suis quand même un admirateur de la Troisième République pour, sous cet aspect, n'est-ce pas? Je pense que l'effort d'éducation, il suffit, n'est-ce pas, d'avoir une petite expérience de pays où cet effort d'éducation n'a pas pu être fait pour voir qu'il est vraiment... que son absence, c'est le creuset de toutes les inégalités. Bon, c'est une banalité de le dire. Bien entendu, quand j'ai parlé de cet immense effort d'éducation, je me situais déjà dans l'utopie planétaire dont j'évoquais la nécessité. C'est une utopie qui, comme toutes les bonnes utopies, n'est pas inconcevable, mais qu'on ne peut pas... dans laquelle on ne peut pas assigner une date précise. Alors, la famille, oui, enfin, il y a des, vous savez, je suis ethnologue, il y a donc des formules de famille très différentes d'un bout de la terre à l'autre. Il y a des, on ne met pas toujours les mêmes types de réalités sous ce terme-là. Bien entendu, le milieu dans lequel on est élevé fait la famille en participe. Mais je ne crois pas qu'il faut l'ouverture vers l'extérieur. Et la préparation à l'extérieur, ce qu'on a trouvé de mieux pour l'instant, c'est quand même l'école. C'est d'abord parce que c'est le contact avec d'autres qui ne sont pas de la famille, justement. Alors l'école a ses faiblesses et ses grandeurs, et je crois que c'est là que se joue quelque chose d'extraordinairement important et qui ne peut pas être laissé... disons, à la loi du marché ou de l'offre et de la demande.
L'école, ça marche de moins en moins.
Pardon ?
L'école, c'est une idée qui marche de moins en moins.
Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que... peut-être parce que j'ai dans la tête, c'est... Nous sommes... Je mesure toutes les insuffisances des systèmes dans lesquels nous vivons. Mais elles sont quand même relatives, et j'ai trop dans la tête l'image de certains pays où l'école n'a pas la généralité qu'elle a ici, pour jeter le bébé avec l'eau du bain, vous voyez, c'est...
Oui.
Vous avez parlé de... Je suis là, monsieur.
Pardon, tout près.
Vous avez parlé de, au travers de l'éducation, de l'adaptation à notre époque, mais en réalité, notre époque, elle n'est pas bien sous tous les aspects. Donc, ça suppose un rapport critique de l'individu à notre époque, donc, puisque les individus produisent du futur. Donc, c'est une adaptation, mais en même temps une critique, quoi. Donc, c'est un rapport très complexe, quand même. Et monsieur parlait de l'école, et on pourrait parler de changer l'école aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer dans l'école aussi. Voyons, on dit qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Il y a beaucoup de critiques par rapport au contenu, par exemple. Vous voyez, je voulais soulever ce genre de questions. Quoi. Oui.
Là, j'adhère à ce que vous dites, n'est-ce pas ? Il est évident qu'une des missions d'une école idéale, c'est notamment de former à l'esprit critique, et qui est évidemment essentielle à la culture. Elle a toujours été essentielle, mais elle est sûrement... L'esprit critique est certainement plus nécessaire qu'il ne l'a jamais été, justement parce que nous sommes, vous savez ce que, une petite parenthèse, mais l'un des inconvénients de ce déluge d'images qui nous entoure quotidiennement, c'est qu'il nous donne l'impression d'une nature, justement, c'est-à-dire que nous y vivons un peu naturellement. Enfin, moi, je n'ai rien en soi contre la télévision ou toutes les manières dont nous pouvons avoir accès au monde extérieur aujourd'hui à travers des images. Mais c'est vrai que nous sommes pris dans un horaire, dans un rythme du temps qui donne aux médias une espèce d'évidence naturelle, n'est-ce pas ? Je crois que c'est l'historien Jacques Le Goff qui avait parlé de cette révolution que constituaient au Moyen-Âge, n'est-ce pas, les cloches qui sonnent à heures régulières et qui, en quelque sorte, constituent le rythme de la journée. Aujourd'hui, c'est le 20h. Donc, il y a une force particulière des images parce que nous vivons un peu dans leur intimité. Alors, ça entraîne très certainement la nécessité de développer l'esprit critique et aussi, c'est pas paradoxal, de se former à ces techniques. Je crois qu'un enfant qui a appris à faire des films, par exemple à monter, à faire des images, est moins susceptible d'être aliéné à l'image parce qu'il sait ce que c'est que d'en faire. Donc, au fond, création, apprentissage et esprit critique, ça doit pouvoir marcher ensemble. C'est un vaste programme.
Oui.
Il ne faut pas séparer radicalement la culture scientifique, qui en principe est très objective par nature, et les systèmes de valeurs des différentes cultures. Ces systèmes de valeurs, on peut les apprendre, mais pour les ressentir, je pense qu'il faut plus ou moins appartenir à la culture qui est la sienne, au moins au départ. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est une question difficile, n'est-ce pas ? Je commencerai par les systèmes de valeurs. On ne peut pas s'enfermer non plus dans les systèmes de valeurs dans lesquels on est élevé, n'est-ce pas ? Parce que si chacun s'enferme dans ces systèmes de valeurs, il est évident que l'échange devient un petit peu difficile. C'est donc cette espèce de tension dont j'avais essayé de signaler entre les valeurs ou les systèmes à l'intérieur desquels on a été élevé et qu'on ne peut pas rejeter comme cela, et l'ouverture sur d'autres expériences et d'autres valeurs. En outre, comme aujourd'hui, le monde bouge, le monde s'ouvre, à certains égards il se ferme peut-être, mais à d'autres égards il s'ouvre, nous nous trouvons en contact avec des systèmes de valeurs un peu parachutés, ça, sont d'un autre ordre. Donc il y a tout un effort éthique à mettre au point, et qui ne peut se résumer ni au relativisme des cultures et à l'isolement dans ce dans quoi on a été élevé, ni à une espèce de sauce consumériste qui distribuerait les bons et les mauvais points, n'est-ce pas, au besoin avec un petit peu de droit d'ingérence, n'est-ce pas, pour simplifier les choses. Alors ça c'est une chose. Alors les sciences là-dedans, les sciences ont l'objectivité pour idéal, mais la manière dont le plus souvent les profanes, disons, ont contact avec la science, c'est à travers les technologies qui sont des applications, des retombées de l'effort scientifique et qui ne sont pas des retombées innocentes. C'est-à-dire que si certains secteurs sont plus développés que d'autres, si on encourage la création, l'industrie dans certains domaines, c'est parce que ça représente des marchés intéressants, etc. Donc il y a entre les technologies qui découlent de l'effort scientifique, mais qui ne le résument pas, et la science, il y a évidemment un très grand contraste. Et alors, souvent, ce sont ces technologies qui suscitent des valeurs aussi, dont on ne peut pas dire qu'elles soient des valeurs objectives, parce qu'elles sont prises dans le jeu social, dans le jeu des puissances, dans le jeu des rapports de force, ou dans le jeu d'influence économique aussi. Mais même les politiques de recherche, parce que pourquoi est-ce que l'on cherche davantage dans un secteur que dans un autre? Il y a la science elle-même, pour ce qu'elle fait découvrir, a bien entendu cette valeur d'effort vers l'objectivité, mais il y a ce qu'on cherche et il y a ce qu'on cherche moins. Et les politiques de recherche sont des politiques qui ne découlent pas entièrement de l'acquis scientifique. Ce qui fait que c'est difficile de situer exactement l'endroit où on va accéder au domaine de l'objectivité intégrale.
Attendez. Oui, allez-y.
Ma question est un petit rapport avec la dernière question. Le philosophe Gilbert Simondon en appelait à une culture technique. Il pensait que une philosophie du devenir, une technologie, était à même de comprendre et de peut-être de réduire le malaise dans la civilisation que provoquent les techniques. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça me paraît une affirmation un peu abrupte. Je vois mal, en effet, que la culture contemporaine ne soit pas une culture qui fasse toute sa place à l'apport des technologies, ne serait-ce que parce qu'il faut les penser, il faut savoir ce qu'on veut en faire, et il faut se situer par rapport à elles. Et donc, de toute manière, ce lien entre technique et culture, il est ancien. J'ai essayé de le signaler très rapidement, mais c'est vrai que depuis le XVIIIe siècle, on l'a explicité, ce rapport entre technique et culture. Mais l'idée que la culture doive être technique est une idée qui me paraît un peu limitée. La culture doit être technique, elle doit être historique, elle doit être politique, elle doit être des tas de choses, la culture. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tellement de mal avec le terme culture, parce qu'après tout, si je dis que la culture doit être culturelle, n'est-ce pas, nous sommes à ce moment-là dans la tautologie. La culture, me semble-t-il, c'est plutôt la culture développe la capacité à se situer par rapport à un certain nombre de constituants de nos sociétés et de nos idées, de nos sciences. En ce sens, je dirais oui à culture technique, mais pour autant qu'on n'abandonne pas les autres. Sinon, pour le dire d'un mot, je ne vois pas comment une culture moderne, la culture d'aujourd'hui ou de demain, pourrait ne pas être technique. Voilà. Mais j'aurais très peur si elle était seulement technique. Voilà.
Oui, allez-y.
Oui, bonsoir, monsieur. Ici au centre.
Pardon.
Vous avez parlé avec beaucoup de brio de l'importance de la valeur d'échange, de la valeur critique pour l'homme qui arrive à un certain degré de culture. Mais n'y a-t-il pas aussi des devoirs pour l'homme cultivé, en particulier face à un monde qui bouge de façon extraordinaire, et vous l'avez aussi montré face à des hégémonies qui veulent imposer leurs valeurs en se servant des technologies actuelles. Ne considérez-vous pas donc que l'homme cultivé se doit d'être non seulement réflexif, mais engagé dans la société pour le faire bouger dans un sens qui respecte un certain nombre de valeurs, non pas dans un sens conservatoire, mais pour les faire évoluer aussi, mais dans un sens qui soit propre à l'épanouissement de milieux tout de même très différents de ceux pour lesquels, quelquefois, on vient les importer d'ailleurs.
Oui, je serais d'autant plus d'accord avec ce que vous dites que la culture, j'ai essayé de le signaler, ne peut pas faire l'impasse sur la situation du monde, qui est une situation de grande inégalité, d'inégalité croissante. Autrement dit, je ferai un peu la même réponse que pour la technique, mais la culture aujourd'hui ne peut que encourager l'esprit critique, l'esprit d'interrogation. Et lorsque vous parlez de l'engagement dans le monde ou dans la vie de la société, il est évident, oui, que pour moi, c'est une forme d'accomplissement de la culture. Et c'est en ce sens que la culture ne peut pas non plus se limiter à l'évocation des valeurs passées. La culture ne peut rien refuser, et encore moins l'action, me semble-t-il.
Je vous remercie.